Toyota. Je te dépose pas juste devant le lycée, j'imagine.
Si.
C'est-à-dire ?
Juste devant la grille, s'il te plaît.
Bah, c'est nouveau, ça.
Mais maman, mes copines, elles vont être trop jalouses. T'as vu comment elle est stylée, notre voiture ?
Eh, comme ta mère.
Démarquez-vous avec style. Grâce à la Toyota EcoCross, à partir de 119 euros par mois, entretien inclus. Porte ouverte ce week-end.
Toyota.
Toyota EcoCross Dynamique LLD 37 mois 30 000 km. Premier loyer 3 990 euros réservé aux particuliers pour toute commande entre les 3 et 18 janvier. Détails sur toyota.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Neuf heures trente, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Janvier 1921, dans le train Strasbourg-Paris, dans une voiture se trouve un officier de très haute taille, vous l'avez reconnu déjà dans son uniforme bleu horizon, son képi posé sur les genoux. Charles de Gaulle est là, qui voit passer défiler les paysages. Il revient de Pologne. Il était conseiller de l'armée polonaise dans le conflit qui l'opposait à la Russie, qu'on n'appelle pas encore tout à fait l'URSS. Il est resté 2 ans en Pologne, le temps que ce conflit se termine au profit des Polonais. Et cette mission l'a réconcilié d'une certaine façon avec son destin militaire. Il faut dire que quand il était rentré d'Allemagne en décembre 18, il était habité par une sorte de sentiment de déshonneur. Il était resté plus de 2 ans enfermé dans les geôles allemandes. Il a tenté de s'échapper à 5 reprises, mais sans succès. Et lui, qui se voyait déjà, qui se rêvait un grand destin militaire, il avait été frustré. Et un temps, il a pensé quitter l'armée. Mais finalement, il a demandé cette affectation donc en Pologne, et ça l'a réconcilié avec la politique et l'armée. Et de plus, il revient à Paris avec une plus grande estime de la part de tous ses supérieurs. Ce capitaine revient également pour se marier, puisque 3 mois après son retour, le 6 avril 1921 exactement, il va épouser Yvonne Vandroux à Calais. C'est un amour réel qui lie les deux mariés. Imaginez l'église pleine, dehors les policiers obligés de contenir une foule de curieux, puisque les parents de Charles eux-mêmes sont totalement étonnés de voir le monde qui peut y avoir ici. Et quand ils se renseigneront le lendemain, ils apprendront que les curieux voulaient voir le mariage d'un De Gaulle. Certains pensaient que ce De Gaulle avait des ascendances gauloise. 9 mois après leur mariage, c'est la naissance de leur premier fils, Philippe. Le couple s'installe à Paris. Charles est chargé de cours d'histoire à l'école de Saint-Cyr et il est très apprécié par ses élèves. Immense, cambré, le col raide serrant le cou trop long, il parlait 2 heures durant sans consulter ses notes et nous subjuguait, nous dit un de ses élèves. Il ne reste qu'une année à Saint-Cyr et en septembre 22, le voilà à la prestigieuse école de guerre. Alors ici, les appréciations des professeurs sont un peu l'inverse de celles des élèves qu'il avait à Saint-Cyr. Tout le monde le juge d'abord insubordonné, rogue, hautain, un peu arrogant. De Gaulle, lui, reproche à ses professeurs le passéisme de leur enseignement. Il ne veut pas qu'on lui enseigne la tactique de la guerre des tranchées. Et l'élève de Gaulle n'a pas sa langue dans sa poche. Il le fait savoir à ses professeurs qui ne l'apprécient vraiment pas. Il sera le moins bien noté de toute sa promotion.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Et voilà le premier ouvrage qui paraît en mars 24 et qui s'appelle « La discorde chez l'ennemi ». L'auteur s'interroge sur le commandement allemand pendant la précédente guerre, sur les causes de la défaite. Il insiste sur un fait qui restera chez lui une constante, c'est que toujours, dans toutes circonstances, le politique doit primer sur le militaire. D'ailleurs, les militaires ne doivent pas faire de politique. Ils ont le devoir de réserve. Et en 24, ils n'ont pas encore le droit de vote. Ça va durer jusqu'en 45, ça. De Gaulle fait fi de cette interdiction. Lui a une certaine idée de l'armée et de la chose publique et au lieu de garder ça pour lui, il en fait état, que ça plaise ou non. Il explose de colère quand il apprend son mauvais classement à l'école. Cette maison souffre d'un vice rédhibitoire, dit-il. Je n'y remettrai plus les pieds autrement que pour la commander. Voilà ce qui s'appelle avoir une certaine conscience de son destin. De Gaulle est nommé à Mayence, en Allemagne, au 4e bureau d'état-major. Et pour lui, évidemment, ça n'est pas une récompense. Il vit ça comme une sanction, disons les choses. Il bénéficie quand même d'un soutien de poids, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le maréchal Pétain en personne, Philippe Pétain, le vainqueur de Verdun, qui a plusieurs fois rencontré ce capitaine, dans lequel il se reconnaît un peu. Il aime son caractère, il aime sa vision. Et il demande au professeur de monter un peu la note de leur ancien élève. Il propose à De Gaulle de devenir sa plume, parce qu'il a envie d'écrire un livre, Pétain. De Gaulle accepte de travailler pour celui qui, à l'époque, est vice-président du Conseil supérieur de guerre. Et en 1925, le voilà donc qui quitte Mayence pour rentrer à Paris et devenir la plume du maréchal Pétain pour ce livre donc en préparation. Il écrit aussi pas mal d'articles signés Pétain dans un certain nombre de revues. Et c'est comme ça que ça se passe généralement. De Gaulle écrit pour Pétain et Pétain encourage De Gaulle. Il le nomme instructeur à l'école de guerre début 26. À ce moment-là, De Gaulle en profite pour proposer un grand projet de réforme de l'école. Mais on ne l'a pas oublié sur place. Et il y a ces anciennes mauvaises notes qui vont un peu bloquer sa progression. À l'automne 1927, Pétain impose que De Gaulle puisse donner une série de conférences aux professeurs de l'école de guerre. Inutile de vous dire que tout ça n'est pas du tout bien perçu. Il faut citer ici un ouvrage que vient d'écrire Jean-Luc Barré, en tout cas le premier tome de sa grosse biographie de Charles de Gaulle, qui vient de paraître chez Grasset et qui a reçu la semaine dernière le prix Renaudot de l'essai. Jean-Luc Barré décrit De Gaulle pendant son premier cours. De Gaulle se hisse sur l'estrade sous le regard interloqué de l'auditoire. Il ôte son képi et ses gants, dispose son sabre couché sur le pupitre. Avant de prendre la parole, il laisse au maréchal le soin d'ouvrir la séance. D'une simple phrase en forme d'injonction, Pétain invite l'assemblée à écouter avec attention l'orateur qui va vous exposer ses idées. Debout, la voix grave, parlant sans note, le capitaine De Gaulle se met à prononcer sa première leçon apprise par cœur. Ça énerve beaucoup, ça. On ne l'a jamais tant détesté à l'école de guerre. Il y a quelqu'un qui déclare « Quel culot ! On n'avait jamais vu une telle suffisance. Ça n'a jamais commandé qu'une compagnie et ça vient vous donner des leçons de commandement. Il se croit tout permis, ça ne peut plus durer. » De Gaulle jubile, mais la vérité, c'est qu'il ne parviendra pas à réformer l'école, évidemment. En tout cas, il ne parviendra pas à la réformer tout de suite. Très calme parce que c'est le quart de minuit à 4 heures du journal de bord de Jean Crasse. L'orchestre philharmonique du Luxembourg était sous direction de Jean-François Antonioli.
Vous écoutez Radio Classique.
Charles de Gaulle et son épouse Yvonne ont maintenant 3 enfants, Philippe, Elisabeth et Anne, qui souffre de trisomie, Anne. D'ailleurs, Charles passe beaucoup de temps avec elle, avec ses enfants, d'une façon plus générale. Il montre à cette dernière petite fille une très grande tendresse. Et il a tendance à tenir sa vie privée très à l'abri de sa carrière. Je cite Jean-Luc Barré de nouveau. « Sens de l'éclat et de la démesure au dehors, exigence de pudeur et de discrétion au dedans. Vie publique et vie privée sont déjà des entités rigoureusement distinctes dans l'univers de Charles de Gaulle. Deux modes d'existence qui se côtoient sans se confondre. Le premier, domaine de la carrière et de l'ambition, est une sorte de dramaturgie à ciel ouvert où s'invente aux yeux de tous la destinée du futur protagoniste d'une grande histoire. La seconde, sphère réservée à l'intimité personnelle et à l'ordre familial, est un espace clos où se déroule à l'abri des regards l'existence presque ordinaire d'un couple et de ses enfants. » Et ici et là, on dirait que ce n'est pas le même homme qui opère. D'un côté, un officier impétueux et provocateur qui s'érige vis-à-vis de ses pairs en modèle d'anticonformisme et de transgression. De l'autre, un mari et un père pétri de règles et de conventions qui se fait le garant intraitable en matière de mœurs et d'éducation, des traditions et des usages de son milieu. Au tournant des années 20-30, de Gaulle multiplie les missions à l'étranger. On l'a vu en Allemagne, il retourne à Trèves, ensuite il va à Beyrouth, au Liban. Et lors de ses missions, il se fait apprécier des hommes du terrain. On remarque que cet homme-là a des idées novatrices, évidemment. Et notamment lors de ses passages en Allemagne, il se convainc qu'une prochaine guerre ne pourra pas être évitée. Il faut à ce moment-là que le pays soit prêt. Et pour le moment, à la tête des armées françaises, les officiers sont trop conservateurs et trop frileux à ses yeux. D'ailleurs, progressivement, il va s'éloigner de Philippe Pétain, qu'il juge précisément beaucoup trop conservateur. Le livre qu'il écrivait pour lui, d'ailleurs, est resté inachevé. Pétain était très enthousiaste dans un premier temps, mais ça y est, il est passé à autre chose. Et de Gaulle a vu ce maréchal tellement populaire en France, et maintenant qu'il l'a vu, qu'il l'a côtoyé, eh bien, il n'est plus aussi enthousiaste pour l'homme. Et désormais, il va suivre sa voie. En 1932, il fait paraître Le fil de l'épée. Dans ses pages, il se montre particulièrement visionnaire. Il appelle à moderniser l'armée, à sortir de la passivité. Et en 1934, il va faire paraître Vers l'armée de métier, où il défend, alors cette fois, une grande réforme de l'armée en mettant en avant le char d'assaut utilisé de façon autonome, de façon offensive par des professionnels. Ce qui veut dire qu'il faut une armée de métiers qui ne reposerait plus sur la conscription et sur les appelés. Ces deux livres rencontrent un succès tout à fait mitigé, il faut bien le dire, mais il commence à faire parler de Gaulle dans le paysage politique. Et ça lui permet d'entrer dans un certain nombre de cercles de réflexion. Le lieutenant-colonel de Gaulle, puisqu'il a pris un peu d'avancement, rencontre Émile Maillère, qui est un officier à la retraite et qui va aider de Gaulle à développer ses idées dans la recherche et à trouver des soutiens politiques. Évidemment, ce grand militaire qui se tient toujours si droit avec la cigarette au bec et qui a l'air tellement sûr de lui, marque les esprits. On voit que cet homme-là possède une vision. Et parmi ceux qui vont être impressionnés par De Gaulle, il y a Paul Reynaud. On est là en décembre 1934. Paul Reynaud est un parlementaire du centre droit. Il siège à l'époque dans l'opposition. Il a eu des portefeuille très prestigieux. Et de Gaulle considère Reynaud comme un des seuls en France qu'on puisse qualifier d'homme d'État. Il a l'intention de s'allier à lui afin que Reynaud puisse défendre les idées de réforme qui sont les siennes, les défendre à la Chambre notamment. Alors la rencontre a donc lieu le 5 décembre 1934. Les deux hommes vont travailler main dans la main et durant toute l'année 1935, Paul Reynaud porte les réformes de Gaulle. Seulement, la Chambre des députés rejette un après l'autre tous les projets en question. Et d'ailleurs, parmi ceux qui prennent la parole pour critiquer les projets de Gaulle, il y a Philippe Pétain en personne. Pendant ce temps, de Gaulle voit l'Allemagne réarmée. Il voit la France passive quand Hitler brise l'un après l'autre tous les engagements du traité de Versailles. Et puis, il y a l'arrivée au pouvoir du Front populaire. De Gaulle rencontre Léon Blum, il lui expose l'importance d'une autre stratégie. Mais comme à chaque fois, les hommes politiques tergiversent et on lui répond que la ligne Maginot est très puissante, que ça suffira pour défendre la France. Et De Gaulle enrage face à cette espèce d'attentisme, de conservatisme. Il en veut d'ailleurs beaucoup à Pétain. En 38, il décide de faire paraître le livre qu'il avait en partie écrit pour le maréchal. Alors, évidemment, Pétain interdit la parution, mais De Gaulle ne l'écoute pas. Et aux éditions Plomb, il va faire paraître la France et son armée. Inutile de vous dire que là, on ne peut plus du tout parler d'amitié entre les deux hommes. En 1938, De Gaulle est à Metz, à la tête du 507e régiment de chars. Il est satisfait d'être de nouveau sur le terrain. En plus, dans une arme, les blindés qui l'intéressent particulièrement, évidemment. Vous avez compris que c'est son cheval de bataille, si je puis dire. Et en 2 ans, il va considérablement renforcer ce 507e. Il en est certain, la frontière est maintenant très menacée, il faut se préparer. L'Orchestre philharmonique de la BBC sous la direction de Gianandrea Noseda interprétait le deuxième mouvement, paradoxalement Allegro molto vivace, de la deuxième symphonie de Casella.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Et ça y est, la Pologne que connaissait bien De Gaulle est envahie 1er septembre 39. Il est à la Boisserie à l'époque, une propriété qu'il a achetée en 1934 en Haute-Marne, à Colombey-les-Deux-Églises. Et quand il apprend cette invasion, De Gaulle rejoint le quartier général de la 5e armée dans les Vosges. Et la France va déclarer la guerre le 3 septembre, vous le savez. À l'époque, beaucoup de gens sont contre cette guerre. De Gaulle voudrait que la France arrête de reculer face à Hitler, et les mois passent, et c'est la drôle de guerre. Et au début de cette bizarre année 40, Paul Reynaud visite De Gaulle dans son régiment. Il lui affirme que dans les prochaines semaines, il est probable qu'on se tourne vers lui pour former un gouvernement. Le ministère Daladier, à l'époque, est très vacillant, et ça pourrait devenir le gouvernement Reynaud. Et Paul Reynaud voudrait que De Gaulle soit à ses côtés pour orienter la conduite d'une guerre dont on ne comprend plus le cours. C'est le 22 mars 40 que Reynaud prend donc la tête de ce gouvernement. Il appelle le lieutenant-colonel De Gaulle à Paris. Celui-ci espère avoir la plus grande influence possible sur le cours des affaires. Ça fait tellement longtemps qu'il voudrait qu'on l'écoute. Mais quand il arrive dans la capitale, c'est pour constater que les ministères sont toujours composés à peu près des mêmes personnes. Daladier a même conservé le ministère de la Défense nationale et de la guerre, ça ne s'invente pas. Au moment de nommer De Gaulle à la tête du secrétariat du cabinet de la guerre, évidemment, il va s'y opposer. Paul Reynaud va céder, il s'excuse auprès de De Gaulle, qui est très en colère, et qui est nommé à la 4e division cuirassée, une des plus puissantes. Et à la mi-mai, eh bien, vous savez ce qui se passe. C'est la grande offensive allemande, à partir du 10 mai. La ligne Maginot est totalement inutile. Les chars allemands appuyés par une aviation d'assaut telle que l'avait prévu De Gaulle bousculent tout sur leur passage. Et c'est la retraite. Ce sont les civils sur les routes, l'exode terrible. Et puis les soldats qui reculent. Le 17 mai, De Gaulle reçoit l'ordre de foncer vers l'ennemi. Ça faisait tellement longtemps qu'il l'attendait, cet ordre.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Et à la tête de sa division blindée, il va réussir à tenir les Allemands pendant un certain temps, mais ils arrivent de plus en plus nombreux, bien entendu, et pendant plus d'une semaine, de Gaulle pousse ses hommes, décuplant leur ardeur au combat, sang-froid, énergie, témérité, écrit encore Jean-Luc Barré, des traits de caractère qui entrent pour beaucoup dans le sentiment de confiance que ce chef incommode et solitaire, engagé tout entier dans le combat, réussit à insuffler autour de lui au moment où le pays est livré à la panique et à l'abattement. Les circonstances ne sont sans doute pas étrangères à ce qu'il y a d'exacerbé dans la façon d'être et de commander propre à son tempérament d'un homme qui ressent le naufrage militaire et politique de la France comme le fruit amer d'autant d'occasions manquées. Et il avoue, au cours de ces heures difficiles, je ne puis m'empêcher d'imaginer ce qu'aurait pu faire l'armée mécanique dont j'avais si longtemps rêvé. Il sera général de brigade le 23 mai sur le terrain. Il poursuit son œuvre, attaque par surprise les Allemands auxquels il inflige des pertes. Mais donc le général de Gaulle, c'est ainsi qu'on va l'appeler, reçoit l'ordre de cesser le combat. Quelques jours plus tôt, la Belgique capitulait, les Allemands, vous savez, c'est toute l'histoire du rembarquement de Dunkerque. Le jeune tout nouveau général rencontre Weygand qui le félicite pour son action. « Vous êtes un chef admirable de cran et d'énergie », lui dit Weygand. Mais la situation, vous le savez, est complètement bloquée. Et deux jours plus tard, de Gaulle écrit à Reynaud pour le pousser à continuer le combat. « Sortez une fois pour toutes du conformisme, des situations acquises, des influences d'académie », lui dit-il. Il offre ses services et le 6 juin, il reçoit un appel qui va lui demander de se rendre à Paris et de se joindre au gouvernement. Oui, ça y est, cet officier qu'on n'a pas voulu écouter et qui a tellement rongé son frein devient sous-secrétaire d'État à la guerre et à la défense nationale, mais un sous-secrétaire d'État qui arrive trop tard, en tout cas pour pouvoir faire face. La suite, vous la connaissez.
Vous écoutez Radio Classique.
Merci à Jean-Baptiste Galland de nous avoir fait revivre cette partie un peu moins connue de la vie du jeune Charles de Gaulle. Et voici le jeune Christian Morin. Bonjour Christian.
Au moment où vous disiez bonjour mon cher Franck, bonjour à tous et à toutes, au moment où vous disiez la suite vous la connaissez, moi la suite je la connais bien puisque mon père a été fait prisonnier dans les premières lignes en 40 du côté de Carvin, évacué, blessé, obligé de se rendre aux Allemands, à Gand, et comme il était dessinateur autodidacte, il a trafiqué ses papiers pour se faire passer de caporal à sous-officier, ce qui lui a permis de refuser de travailler pour les Allemands.
Avec un carnet de dessins absolument passionnant que j'ai eu la grande chance de pouvoir consulter. À propos de dessins, c'est vous qui allez signer demain, mon cher Christian, loin d'ici, à la librairie Fontaine.
Que vous connaissez bien.
Oh, oui, très bien.
Vous y avez dédicacé nombre de livres. À côté de Radio Classique, c'est au 50 rue de la Borde. J'y serai de 18h à 20h.
Oh, à mon avis, ça durera jusqu'à minuit, cette histoire.
Oui, on mangera sur place, alors. On dînera sur place.
Jusqu'à la rue.
Oui. Merci, mon cher Franck. Cet après-midi, donc, votre rendez-vous, comme chaque jour, nous propose, attendez que je ressorte mes notes, vous nous proposez, après l'entre-deux-guerres, Charles de Gaulle, que vous pourrez saluer en allant à la cité de l'histoire.
Bien sûr. Oui.
Dès que vous rentrez.
On entre dans le bureau du général de Gaulle.
Oui, reconstitué de façon remarquable.
Merci, merci.
Remarquable, et on voit de Gaulle, de dos, en train d'écrire sur cette table où il s'est écroulé. Cet après-midi, Münzenberg.
Oui.
De quoi
s'agit-il ? Ça, vous allez voir, c'est une belle histoire.
Belle histoire. Bon, ben, donc, vous avez compris le message de Franck. Il vous suffit d'être là à 14h. Et puis, juste un petit clin d'œil amical à tous les amateurs de musique brésilienne et à tous les Brésiliens et Brésiliennes qui étaient hier soir à l'Olympia pour apprécier le spectacle magnifique d'un de mes amis. J'ai eu la chance de jouer avec lui, de le rencontrer. C'est Sergio Mendes avec ses musiciens. On a passé une soirée qui a fait du bien. C'est-à-dire, ça nous a à la fois réchauffé et apporté beaucoup de joie et de bonne humeur, ce dont on a bien besoin.
Comme on dit à Paris, la saison bat son plein.
Ah oui, Oui. Vous l'écrivez comment? En deux mots.
Un son plein.
Un son plein. Mais oui, on fait souvent l'erreur. À propos d'orthographe, c'est une catastrophe, paraît-il, sur le plan de l'éducation nationale. On en parle beaucoup dans les journaux, notamment chez David Abiker ce matin. Merci Franck, à demain.
Bonne journée.